chargé de recherche au CNRS, membre du Centre de sociologie européenne. Une intervention qui va porter sur les élites, sur le champ du pouvoir, en s'interrogeant sur sa reproduction et son renouvellement. Voilà, François, je te cède la parole.
Écoute, merci beaucoup. Je ne sais pas si ça marche là. Ouais. Bonjour à tous. Donc l'objet de la conférence, vous le voyez, elle va porter sur ceux qui tirent les ficelles et leur antique et prestigieuse société secrète. Et donc ça va porter plus exactement sur la structure des milieux dirigeants français et ce qu'on peut appeler une élite du pouvoir en France. Alors pour commencer, je voulais juste évoquer l'actualité récente, notamment le fait que le 23 mars, un journal qui est bien connu des milieux médiatiques et politiques, publié un article intitulé « Plusieurs enfants de personnalité dans la nouvelle promotion Jean Zay de l'ENA ». Alors, dans ce titre, vous avez à peu près toute l'information contenue dans l'article. Le reste n'est qu'une succession de noms propres et de fonctions. Alors, je vais en citer juste une toute petite partie. Monsieur Pierre Bouillon, fils de Monsieur Stéphane Bouillon, ENA, promotion Louise Michel, préfet, directeur de cabinet de Monsieur Claude Guéant. Monsieur Guillaume Lamy, fils de Jean Lamy, conseiller des affaires étrangères, ambassadeur au Burundi. Monsieur Maxence Brichou, fils de Henri Brichou, ENA, promotion droit de l'homme, président directeur général de Saint-Christophe Prévoyance, c'est la société d'assurance du clergé. Monsieur Jérôme Darcourt, fils de Monsieur Claude Darcourt, ENA, promotion droit de l'homme, préfet, directeur général de l'Agence régionale de la santé de Haute-Normandie. Monsieur Quentin Lopineau, fils de Monsieur Didier Lopineau, ENA, promotion Henri-François Daguesseau, ministre plénipotentiaire, ambassadeur. Alors j'arrête là cet inventaire qui n'est pas tout à fait à l'après-vert. Vous aurez remarqué, vous avez des énarques, fils d'énarques, qui deviennent des patrons ou des hauts fonctionnaires. Il y a une sorte de logique dans tout ça. Alors évidemment, cette dépêche de presse qui expliquait ce recrutement et cette reproduction des énarques n'a pas été reprise dans la plupart des grands journaux français, qui pourtant, malgré tout, lisent le journal dans lequel elle est parue, puisqu'il s'agit du Bulletin quotidien. Le Bulletin quotidien, qui est une lettre spécialisée, publiée par la Société Générale de Presse, qui est une PME qui organise tous les mois ce qu'on appelle le dîner du siècle. Le dîner d'un club qui réunit en un seul réseau les grands patrons, les hauts fonctionnaires, les hommes politiques et les patrons de presse français. Donc, ma présentation aujourd'hui va consister à essayer de démontrer que les élites françaises sont peut-être assez différenciées à leur base, mais qu'à leur sommet, elles sont suffisamment intégrées pour qu'on puisse parler d'une élite du pouvoir, au sens où Wright Mills utilisait ce terme dans un livre assez connu des années 50, « Élite au pouvoir » qui vient de reparaître chez... disponible sur la table et qui vient de reparaître chez Agone. Alors de quoi parlait ce livre? Dans les années 50, Mills essayait de montrer qu'il y avait aux États-Unis une étroite imbrication des pouvoirs économiques, politiques et militaires. Pourquoi y avait-il cette intégration? Parce que les dirigeants américains avaient des origines sociales, des formations assez semblables, à telle enseigne qu'ils en devenaient plus ou moins interchangeables et capables de passer d'une position de pouvoir à une autre. Eisenhower, par exemple, étant un bon exemple, puisque vous avez le chef d'état-major des armées qui a présidé l'université de Columbia et qui a été président de la République, donc qui a fait ce cumul dans une même trajectoire. Dans l'élite au pouvoir, Mills fait l'hypothèse que les ordres dominants de son temps, les ordres institutionnels dominants de son temps, sont l'armée, l'entreprise et le directoire politique. Qu'est-ce qu'on pourrait dire pour la France d'aujourd'hui? On pourrait dire, je suppose, que le pouvoir est concentré entre des individus, pour la plupart énarques, circulant entre des ordres institutionnels qui sont les grands corps de l'État, l'économie et le monde politique. Là aussi, on verrait que ce sont des gens issus plutôt de milieux favorisés et ont fréquenté des grands lycées et des grandes écoles, et qu'ils monopolisent aujourd'hui la plupart des pouvoirs dans les domaines politiques, économiques et administratifs. Alors mon propos va s'organiser autour de trois grands points que vous trouvez là. Dans un premier temps, je vais essayer de circonscrire les effets que les transformations qu'on a connues ces 30 dernières années, notamment dans le domaine économique et financier, ont pu avoir ou non sur les élites dirigeantes. Je soulignerai ensuite les principales lignes de clivage qui affectent la classe dominante française aujourd'hui. Et puis après, j'essaierai de présenter les contours de ce qui est l'élite au pouvoir actuellement et d'expliquer un peu comment elle fonctionne. Alors je précise que ce que je vais dire vient d'enquêtes collectives qui sont assises sur beaucoup de traitements statistiques. Ici, je présenterai des résultats bruts, je ne rentrerai pas dans les détails de la fabrication, on peut en discuter après si vous le voulez. Donc mon premier point, c'est quels ont été les effets des transformations qu'a connu la France, comme la plupart des pays occidentaux, depuis les années 70, sur les milieux dirigeants. Alors pour pouvoir estimer ça, il faut d'abord se mettre d'accord sur qu'est-ce que sont les élites et qu'est-ce que serait ou non une classe dirigeante. D'un point de vue de sociologue, il est à peu près évident que la notion d'élite n'a pas de sens en tant que telle, qu'il n'existe pas d'élite naturellement désignée comme telle. En revanche, on peut dire, je pense, qu'il existe une élite socialement instituée en tant que telle. C'est-à-dire que plutôt que de travailler sur l'élite telle qu'elle serait en elle-même, on a choisi de travailler sur la représentation de l'élite, et une représentation qui nous paraît d'autant plus socialement forte qu'elle est institutionnalisée, notamment grâce à l'existence de guides biographiques, et en particulier du Wouzou, qui est en France une vieille institution, qui depuis les années 50 recense les principaux dirigeants des domaines politiques, économiques, administratifs et intellectuels, et qui les recense en partant d'un double critère. Un critère d'un côté de position, c'est-à-dire que les gens qui y figurent le doivent à leur position haute dans une hiérarchie institutionnelle. Et un deuxième critère, qui est un critère de notoriété. Et là, on s'appuie sur la base, le dépouillement de la presse, pour repérer un certain nombre de personnes souvent évoquées dans les médias comme étant influentes. À ça s'ajoute un autre avantage, c'est que le Wouzou existant depuis les années 50 et n'ayant pas vraiment changé dans ses principes de fabrication, on a des comparaisons possibles dans le temps, et notamment aussi parce que des enquêtes ont été consacrées à la structure des classes dirigeantes françaises dans les années 70, et notamment une réalisée par Holger Lewandowski, bon, je donne son nom là, qui avait travaillé sur la base du Wouzou aussi, sur la structure des milieux dirigeants français à la fin des années 60, et le texte a été publié qu'au milieu des années 70. Alors, si on regarde en faisant un travail comparable sur les élites d'aujourd'hui, on peut voir qu'un certain nombre d'évolutions morphologiques apparaissent assez nettement. D'abord, on peut dire que les élites françaises enregistrent dans leur structure même des évolutions qui ont affecté la société dans son ensemble. Très concrètement, vous voyez que les femmes sont un peu moins mal représentées. Bon, c'est un peu moins mal, puisque c'est 13% d'un Wouzou aujourd'hui contre 2% dans les années 60, mais c'est un peu moins mal. Vous voyez, si on regarde par exemple les formes de la famille qu'on a mis là, alors en prenant un critère très familialiste, hein, en disant il y a la famille familialiste classique, c'est-à-dire un couple marié avec enfant ou un veuf, etc., versus la famille de divorcé, de célibat, l'union libre, enfin toutes les formes non bourgeoises traditionnelles de la famille, on voit que là aussi ce familialiste traditionnel décline en partie au profit du célibat ou du concubinage, voire du silence. Là où il y avait le « ne sait pas », on voit que les gens se déclarent moins aujourd'hui sur quel est l'état de leur statut matrimonial. Enfin, dans les grosses évolutions, on peut dur à voir, mais on voit aussi que le niveau d'études, des catégories supérieures, a lui aussi augmenté, comme c'est le cas pour la plupart de la population. Si on regarde maintenant plus en se référant au secteur d'activité, là on voit un certain nombre d'évolutions notables. D'abord, on voit que la bourgeoisie d'affaires supplante aujourd'hui dans le Wouzou la bourgeoisie de robe. C'est quoi la bourgeoisie d'affaires? C'est-à-dire le patronat du commerce, de l'industrie, les banques, versus la bourgeoisie de robe, qui serait les professions libérales et les hauts fonctionnaires. Et ça se voit aussi bien quand on regarde les origines sociales des gens qui sont dans le Wouzou. Vous voyez par exemple que les enfants de hauts fonctionnaires, c'est-à-dire qu'ils ont 11,8% d'un Wouzou versus 17,2% des années 60. Et ça se voit donc. De même, vous voyez, pour les fils de patrons, leur nombre augmente. Et ça se voit inversement dans les secteurs d'activité des gens recensés par le Wouzou, puisque vous avez, par exemple, de l'enseignement qui décroît, l'administration, elle, reste stable, mais la finance double, le commerce augmente, triple, et l'industrie diminue. Donc, ce qu'on observe là, c'est une évolution des secteurs au sein duquel se recrutent les élites françaises, ou du moins où se construit l'image de l'élite française. Et on peut en donner une vision plus dynamique. Alors là, je vais vous simplifier très vite. C'est on a compté au sein des secteurs dirigeants la part des gens issus d'un secteur autre au début de leur carrière. C'est l'idée d'importation. Combien sont venus d'ailleurs? Et l'exportation, c'est combien vont quitter un secteur au cours de leur carrière. Et bon, on voit que l'enseignement supérieur, par exemple, a un effet assez répulsif aujourd'hui dans les jeunes dirigeants, puisque vous voyez que aujourd'hui, la plupart des gens qui ont commencé leur carrière dans l'enseignement supérieur et qui sont dans un bousou l'ont quitté au cours de la carrière et occupent aujourd'hui des positions dans des domaines qui sont étrangers. Et en haute fonction publique, vous pouvez voir que, pareil, le taux de pantouflage a augmenté de manière assez significative. Et vous voyez de même que, à l'inverse, les domaines comme le commerce et la finance sont extrêmement attractifs, puisqu'une partie, presque la moitié des gens qui y sont, avaient commencé leur carrière ailleurs. Donc, il nous semble que ces évolutions, donc on avait aussi traduit sur une forme graphique, mais on va oublier, ces évolutions témoignent de transformations importantes qu'on peut mettre en parallèle des transformations. Je vous montre pas ça tout de suite. Qu'on peut mettre en parallèle des transformations de l'État en France, on voit les effets d'une financiarisation d'un côté et on voit, d'un autre côté, les effets d'un désengagement de l'État dans les affaires économiques et sociales. Bon, si on, là, c'était un premier, c'était en gros mon premier point, c'est quelques évolutions qui ont touché les élites. Si maintenant, on veut rentrer plus dans les clivages internes aux élites, on a réalisé différentes traitement statistique sur la base d'un échantillon de 7000 individus issus du Ouzou, c'est-à-dire en gros un tiers du Ouzou, ce qui fait qu'on a très peu de marge. Alors on voit qu'un premier axe de l'analyse oppose d'un côté tout ce qu'on pourrait lier à la culture et au social, et de l'autre côté tout ce qu'on pourrait lier à l'économie. Évidemment, c'est une forme de continuum qui va, disons, des activités les plus gratuites, ici les quelques poètes de notre échantillon sont par là, ici, la banque d'assurance, où on trouverait tout au bout de l'axe, on trouve M. Bucaille de Lazare Monde, enfin de la banque Lazare, dans la direction de Lazare Monde, qu'on retrouve à tout à fait extrême, et on imagine bien que la haute fonction publique, de même qu'une bonne partie de la bourgeoisie de robe, se distribue dans une partie intermédiaire, la haute fonction publique plus économique par ici, et la haute fonction publique plus dans le social par là. Bon, on voit à ce type de choses correspond en fait des formes de reproduction assez simples. Ici, du côté de l'économie, vous avez quand même des cadres dirigeants de l'économie qui sont très souvent fils de patrons, qui sont issus d'écoles privées, qui sont issus d'écoles de commerce des grandes parisiennes, HEC, ESSEC, ESCP, et donc qui vivent dans un monde dans lequel l'intériorisation d'une morale professionnelle patronale ou d'un attachement à l'économie de marché s'est fait très tôt, avec dès le départ une éducation qui se fait hors de l'école publique et hors du service de l'État. Inversement, ici, vous trouvez, alors ça n'a pas été dit parce que vous trouvez des enfants de profession intellectuelle, vous trouvez des gens qui écrivent des livres, des gens qui ont fait des études de lettres, des gens qui font de la recherche, etc. Cette première opposition, il nous semble qu'elle résume avant tout une opposition en termes d'intégration à l'ordre économique, c'est-à-dire de contrôle sur les moyens de production économique. Par rapport au schéma que tu avais produit en avant sur le capital culturel plus, le capital économique moins, etc., il nous semble que le schéma ici est un peu différent. C'est plus on avance sur cet axe, plus on a de contrôle sur les moyens de production. Parce que ici, vous trouverez des hauts fonctionnaires qui, en tant que trésoriers de payeurs généraux, qui, en tant que conservateurs des hypothèques, qui, en tant que conseillers d'État et dirigeants de Sciences Po, comme Richard Descoings, on parlait pas longtemps quand il gagnait 24 000 euros par mois, ont des salaires assez comparables à ce que peut gagner à ce pôle-là un directeur de la communication d'un groupe moyen qui va gagner 10 000, 11 000 euros par mois. Donc ce n'est pas nécessairement une question de capital économique, de même que le patrimoine, on le sait, peut être très inégalement distribué sur cet axe, puisque vous avez des hauts fonctionnaires descendants de grandes familles, souvent en particulier, et inversement, vous pouvez avoir ici des gens issus de la bourgeoisie économique moyenne avec des patrimoines inférieurs. Donc pour nous, cette première différenciation, c'est vraiment une question d'intégration à l'ordre économique. Le second axe, l'axe vertical qu'on a représenté ici, traduit plus un autre facteur de différenciation au sein des élites, qui est l'ancienneté de leur appartenance à la bourgeoisie. Alors cette ancienneté, elle se lie à deux niveaux. Elle se lie au niveau de l'individu et elle se lie au niveau de la famille. Alors au niveau de l'individu, bon, vous voyez, le mariage s'aligne sur cet axe. Mais c'est aussi les gens qui, ici, avaient une mère qui travaillait. Ceux ici ont une mère qui ne travaillait pas. Ceux qui sont ici ont peu d'enfants, peuvent être des femmes, alors qu'en haut, vous avez des familles nombreuses, avec plus de 4 enfants, des formes familiales, etc. Donc, disons que le modèle que vous avez ici, vous avez des nouveaux venus en bourgeoisie, pour beaucoup, alors qu'ici, on retrouve les modèles très, très traditionnalistes et conformistes, voire le modèle du bottin mondain qu'on a tout en haut, et donc de la longue lignée religieuse où la femme ne travaille pas, où la mère déjà ne travaillait pas, etc., etc. Donc c'est une sorte de deuxième manière de penser les différenciations au sein de la classe dominante. Bon, il y en a d'autres, mais je vais pas. Il y a d'autres actes dans notre analyse, mais je ne vais pas m'apesantir dessus. Mais il me semble que donc on a deux principes importants. C'est d'abord le degré d'intégration à l'ordre économique, et ensuite l'ancienneté dans la classe. Et j'insiste là-dessus parce que des études menées dans d'autres pays montrent des résultats assez similaires. Enfin, les travaux qu'on a fait avec une équipe de Norvégiens montrent que c'est à peu près le même genre de clivage, ce qui n'est pas du tout absurde dans une société capitaliste avancée que l'ordre économique soit un premier principe de clivage et que l'ancienneté de la classe des entrepreneurs en soit un autre. Alors, si on combine ces deux critères, là vous avez des figures, mais c'est pour après. Si on combine ces deux critères, on peut avoir en gros une sorte de hiérarchie de la classe dominante. En fait, si on revenait au espace des variables, avant, c'est là où vous aviez le bottin, mondain, etc. Ici, c'est le sommet de la classe dominante. C'est le sommet et c'est le lieu où à la fois vous avez le contrôle sur l'État et le contrôle sur l'entreprise privée, où on hérite de positions de force et on reproduit plus ou moins. En gros, les individus qui se situent dans ce cadran sont des gens qui sont nés là. Ce n'est pas un lieu dans lequel on accède au cours d'une carrière, il faut plusieurs générations pour être ici. Ensuite, les catégories dominantes pourraient être scindées en deux parties. Une partie du public, qui est ici, avec des universitaires, avec des hauts fonctionnaires du social, et une partie du privé, ici, où on trouverait des cadres dirigeants d'entreprises, et parfois dans des professions neuves, comme cette femme qu'on avait mise là, par exemple, qui est directrice de la communication, de RTL, versus ce que vous avez en haut, c'est un haut fonctionnaire d'une famille, d'un carreau de Malberg, à particules avec 10 membres dans le bottin mondain, etc. Mais bon, donc ici, on est dans les fractions intermédiaires. Là, on peut y accéder dans ces fractions au cours d'une génération. Par exemple, ici, vous trouverez des gens qui accèdent à des positions dominantes par le biais de la politique ou par le biais des concours internes de la fonction publique. Vous trouvez des énarques en interne qui montent dans la fonction publique. Ou, par la politique, on trouve beaucoup d'enseignants. Enfin, beaucoup. Disons que ce serait Ayagon à droite ou Teulade à gauche qui, par le syndicalisme, qui, par les contacts corréziens, enfin bon, bref, par différentes voies, montent. Donc, c'est des zones dans lesquelles on peut accéder. Ici, on va dire que c'est plutôt la zone dominée de notre champ de pouvoir et correspond beaucoup plus aux catégories intellectuelles, avec des gens qui sont plus souvent venus récemment en bourgeoisie et qui ont peu l'opportunité de se convertir dans les autres zones, sauf, je disais, à part quelques cas, par la politique, ou même que là aussi, vous avez un moyen d'ascension qui est souvent les cabinets de conseil ou des choses comme ça qui permettent de réamorcer des carrières et d'aller plus à la légende, mais on accède vraiment rarement à cette zone-là. Si on voulait illustrer par un personnage l'entrecroisement de ces principes, ici, vous avez Ernest Antoine Seillière qui est le point là. Vous avez quelqu'un qui est à la fois totalement intégré à l'ordre économique, qui en même temps est un héritier de Vindel, qui en même temps est énarque, qui a fait des cabinets ministériels, qui a été à Harvard et qui a fini par reprendre la holding familiale, puis à devenir le porte-parole du patronat organisé, puis à devenir le porte-parole du patronat européen. Vous avez vraiment le symbole de quelqu'un qui est né là et qui incarne à peu près toutes les propriétés de ce que pourrait être un membre dominant de la classe dominante. Et donc, une fois qu'on en est arrivé là, bon, bah, où trouverons-nous les gens qui pourraient composer ce que l'on pourrait appeler une forme d'élite au pouvoir? Alors, il me semble que pour les localiser, les repérer, même si on se doute déjà un peu qu'en haut à droite, il doit y en avoir pas mal, il me semble qu'on peut partir d'un critère objectif. Et ce critère objectif, c'est de partir des membres du siècle. Alors, pourquoi partir de la liste des membres du siècle? Parce que ce club qui a été créé au lendemain de la Seconde Guerre mondiale s'est donné d'emblée pour vocation de recruter les meilleurs ou les dirigeants les plus influents des domaines politiques, économiques, journalistiques et financiers. Ces personnalités se réunissent dans un lieu pour un dîner qui ne donne pas lieu à une prise de décision quelconque, c'est avant tout un lieu d'intégration. Et c'est en cela qu'il nous paraît intéressant, puisque vous avez des gens qui s'auto-reconnaissent les uns les autres comme faisant partie des puissants du pays, puisque si on prenait une simple citation de Jean-Louis Dreyfus, qui résume le propos. Pourquoi va-t-on au siècle ? On va au dîner du siècle pour le pouvoir. C'est tout simplement ça. Il dit on va à la ROP, donc la soirée pour l'opéra, c'est pour la musique. Pour la culture, pour manger, pour la gastronomie, on va au dîner des 100. Et bah, pour le pouvoir, on va au siècle. Alors, il nous semble que ce qui fait l'intérêt aussi de cette institution, c'est qu'elle se conforme à quatre grands principes qui la rendent assez bien, qui en font un bon indicateur de l'appartenance du pouvoir. C'est d'abord que c'est quelque chose de très sélectif, puisqu'il s'agit de choisir les individus les plus puissants des différents domaines et capables de prendre des décisions affectant beaucoup d'individus. Qu'il y a un impératif, on va dire, de généralité, c'est-à-dire qu'il s'agit de saisir tous les milieux dirigeants. Donc vous avez aussi des religieux, vous avez aussi quelques artistes, vous avez même un sociologue, Pierre-Michel Menger, qui est membre du siècle. Vous trouvez comme ça, dans les différents domaines, une ou deux personnes qui sont choisies. Vous avez un impératif de durée, bon, c'est quelque chose qui existe depuis le lendemain de la Seconde Guerre mondiale et qui se réunit tous les mois, donc c'est quelque chose de très institué. Et puis vous avez un impératif de discrétion, puisque ce n'est pas un lieu où l'on complote, c'est un lieu où on échange plutôt des bons mots. C'est moins un lieu d'échange d'informations qu'un lieu où on échange des avis, des opinions, etc. Ce qu'on est d'autant plus amené à faire si on sait que rien ne sortira du déjeuner, ou enfin du dîner, plus exactement. Alors évidemment, donc, je présente là le siècle comme un lieu de réunion de différentes élites. Mais tout cela ne signifie pas que cette mise en relation entre les élites soit parfaitement symétrique et égale. Ce que je veux dire par là, c'est qu'évidemment, aller dîner au siècle, ça ne coûte pas la même chose pour tous ceux qui s'y rendent. Quand vous êtes syndicaliste, aller dîner avec les patrons du CAC 40, plus quelques sommités de l'UMP, plus des financiers et des journalistes de droite, ce n'est pas forcément quelque chose d'évident à faire. Quand vous êtes inversement un journaliste, vous êtes censé informer, etc., aller à des dîners dont vous devez taire le contenu avec des personnalités influentes, ce n'est pas une chose qui se fait gratuitement. Quand vous êtes dans la politique de droite, aller dîner avec quelqu'un de gauche, un responsable du Parti socialiste, etc., et même si on est près d'une campagne, ce n'est pas quelque chose d'évident. Et si on regarde en fait les différents publics du siècle, on voit que le plus simple, enfin le groupe pour lequel tout cela est le plus simple et le plus naturel, c'est le grand patronat qu'on retrouve en son sein, qui n'a absolument rien à perdre à avoir discuté avec un syndicaliste, rien à perdre à avoir discuté avec un journaliste, rien à perdre à prendre des liaisons avec la majorité en place ou la majorité de demain ou l'opposition. Et il nous semble que si on se concentre même sur le recrutement social du siècle, on voit que certes, il y a une diversité de recrutement, mais malgré tout, une très forte homogénéité des membres. Alors le siècle se présente comme un tremplin pour des élites. Alors il se félicite par exemple d'avoir aujourd'hui Nicole Nota comme patronne, mais d'avoir eu recruté précédemment Fadela Amara, Rachida Dati ou quelques autres personnalités issues de la diversité, plutôt des femmes, et qui n'occupaient pas encore des positions de pouvoir au moment où elles étaient recrutées. Mais si on regarde de manière plus brutale qui sont les membres du siècle, ils sont quand même à 85% des hommes, âgés de plus de 55 ans, franciliens, fils de patrons ou de fonctionnaires, pour plus de la moitié diplômés de Sciences Po, pour 40% d'entre eux diplômés de l'ENA, et pour la plupart, ils ont circulé entre le privé, le public et la politique. Alors, si on projette ça, comme ça c'était quelques personnalités du siècle, c'est des extraits du film Le Nouveau Chien de Garde, que je vous présentais, mais bon, c'est juste pour montrer qu'il y a vraiment des gens importants, comme M. Bernheim, qui est un des banquiers les plus influents qu'on ait connus, Arlette Chabot, qui s'occupe de la formation, Bernard Coyer, président de l'Assemblée, des économistes célèbres. Bref, je ne vais pas continuer, mais bref, vous avez beaucoup de monde. Alors, si on se dit, où ces gens du siècle se situaient-ils dans notre espace ? Alors, si on regarde sur notre axe horizontal, qui allait tout à l'heure donc, de l'université à la banque, on en trouve un peu partout. Et clairement, vous voyez, ça, c'est le point moyen. C'est le milieu, la moyenne, quoi. La moyenne, elle est quasiment au centre. Et ça, c'est bien le résultat de cette opération de diversification. On en parlait tout à l'heure. Mais si on regarde sur cet axe-là, par contre, il est clairement plus en haut. C'est-à-dire plus du côté de l'ancienneté dans la bourgeoisie et pas spécifiquement dans un renouvellement. Et même si on fait des têtes statistiques, on pourrait prouver que notre groupe de 787 membres du siècle qui est là, il n'y a aucun groupe de 787 individus qui soit situé aussi en haut sur TechSact, c'est statistiquement. Donc, c'est vraiment un groupe qui se caractérise d'abord par son ancienneté dans la bourgeoisie. Ensuite, il y avait dans l'analyse de tout à l'heure, je vous avais présenté deux premiers axes qui me permettaient de hiérarchiser les dominantes. Il y avait un troisième axe que je n'avais pas montré, qui est celui-ci, qui est un axe qui oppose le monde de la noblesse d'État au reste des fractions des élites, et en particulier tout ce qui est élus locaux, représentants patronaux, représentants de mairie, des campagnes, etc., versus en haut des énarques exerçant des fonctions régaliennes dans des ministères liés à l'économie ou à l'équipement, enseignant dans des écoles de pouvoir type Sciences Po, ayant fait Sciences Po, etc. Or, quand on revient sur le siècle, on voit très clairement que là, le frein moyen se trouve clairement aussi du côté de la noblesse d'État. Donc, si je veux conclure sur ces gens du siècle, on voit bien que si les discours officiels, pour revenir sur la démocratie qui est le thème du colloque, si on revient au discours officiel républicain, qui dit que on prétend corriger les inégalités sociales d'origine, notamment par le biais de l'école et du suffrage universel, on voit bien, quand on reprend un lieu comme le siècle, qu'on a d'autant plus de chances d'exercer une position de pouvoir, politique, économique ou administratif, que l'on a bénéficié déjà de l'arbitraire de la naissance, et que cet arbitraire a été redoublé par une onction étatique, et notamment par les grands corps et les grandes écoles de l'État. Alors, pour conclure, il me semble que cette intégration des élites françaises, donc certes peut-être dispersées à leur base, mais unies à leur sommet, dans son ensemble, conforte plutôt le pouvoir de famille patronale, issue souvent de la bourgeoisie, passée par des grandes écoles, et malgré tout, toujours liée à l'État, soit parce qu'elles en sont issues, soit parce que l'État continue à être leur interlocuteur principal. Et du même coup, ça fait réfléchir sur une opposition qui était un peu canonique dans les années 70 en sociologie, entre un patronat du privé et un patronat d'État. On voit bien que l'idée de patronat d'État, une fois que l'État s'est désengagé des activités économiques, perd en partie de son sens. Les enfants des patrons d'État sont devenus, pour la plupart, des patrons du privé. Ce qu'on observe ici, c'est donc qu'on a un renforcement de familles patronales qui disposent d'un pouvoir fort sur l'économie et, en partie, sur l'État, et que ce pouvoir est largement conforté, sans doute, par le désengagement de l'État de l'économie, qui a été précisément opéré par une grande partie de la noblesse d'État au cours des années 80. Dans ce système, ça ne signifie pas donc que l'État est disparu, ce sont des individus liés à l'État qui ont la capacité de faire interagir entre eux des élites politiques, administratives et économiques. Alors il me semble que l'élite au pouvoir en France a longtemps été une élite d'État et qu'elle le reste en partie. Et cette stabilité, il me semble, elle la doit en partie aux alliances qui ont pu se conclure avec différents pouvoirs médiatiques et avec différents groupes de presse. Pour revenir à mon point de départ, qui était le livre de Mills sur l'élite au pouvoir, c'est un livre dans lequel il essaie de montrer que dans les démocraties comme les nôtres, les monopolisations capitalistes dans le domaine de l'information font que les citoyens ont de plus en plus de mal à agir comme des publics véritables. Pourquoi ? Parce que tout simplement, ils n'ont pas de contrôle sur les moyens d'information qui eux-mêmes sont entre les mains de grandes entreprises. Et dès lors, la hiérarchie de l'information, le poids du national et de l'international, le poids du fait divers par rapport aux faits politiques, etc., cette hiérarchisation, elle échappe à peu près totalement aux citoyens ordinaires. Or, ce que montre le siècle, c'est que les milieux dirigeants économiques, politiques, patronaux, ont su s'allier des experts, des journalistes, des vedettes qui participent de leur cercle, et que c'est en partie ce bornage de l'espace des possibles politiques qui fait que cette élite au pouvoir peut se maintenir en place à une époque où l'information que le bulletin quotidien dont je vous parlais au début destine à la classe dominante française n'atteint pas la plus grande communauté des mortels. Voilà.
Merci François. Des questions ?
Est-ce qu'il est possible de faire sur la SEM une homologie avec
Dans notre espace, il y a les... Alors, si on raisonne au terme, sur l'espace dans son ensemble, les professions politiques, elles sont plutôt situées de ce côté-là. Il y a les dirigeants politiques sont plutôt là, avec une forme de dispersion. Pourquoi est-ce qu'ils sont là ? En partie parce qu'il y a dans les rangs des députés socialistes, etc., on a pas mal de gens qui viennent de l'enseignement, quand même. Donc, on va dire qu'ils seraient par là. Et puis, on a dans les rangs de droite, abondance de professions libérales, qui sont plutôt par là. Et bon, tout ça s'équilibre à peu près pour nous situer le champ politique ici. Et on dirait en modèle réduit qu'effectivement, dans ces politiques, plus on va par là, plus il serait plutôt à gauche. Plus on va par là, plus il serait plutôt à droite. Si maintenant on raisonne au niveau du siècle ou de l'élite au pouvoir, là, il y a une certaine forme d'exclusif politique. C'est-à-dire que le débat s'y limite entre les familles de gouvernement, on va dire, ou les familles centrales. Donc c'est PS, radicaux, UMP, UDF essentiellement qui délimitent l'espace politique. Il n'y a jamais eu au siècle de membres communistes, même si historiquement... je ne sais plus son nom, mais un banquier qui était lié à des banques de l'Est était réputéré pour être le représentant officieux du Parti communiste. Actuellement, il n'y a pas de membre du Parti communiste. Il y a eu un membre de la CGT. Quoi ? Pas d'extrême droite non plus. Non, ça va du PS à l'UMP.
Ouais. Refuser d'en faire partie. Est-ce que les refus sont plutôt des gens dominés ou comment vous intégrez ce sujet-là ?
Alors, j'ai pas eu de statistiques globales. Bon, effectivement, il y a pas mal de refus. Et pour avoir discuté avec des gens qui ont travaillé dans la société qui édite le Ouzou, ils sont très variables d'un univers professionnel à l'autre. Donc, par exemple, dans le monde académique, il y en a pas mal qui refusent. Et je crois que ça peut aller des fois sur des rapports de il faut demander à 8 personnes pour en avoir une. Donc voilà, et même j'ai essayé de convaincre un sociologue universitaire de bien vouloir remplir sa fiche pour qu'on puisse suivre en mettant éventuellement des erreurs dans ses origines sociales pour voir si c'était vraiment vérifié, puisque le Ouzou certifie, vérifie auprès de l'État civil. Bon, bref. Il y a des professions qui s'excluent quasiment d'office du Ouzou. Alors ça, on l'a vu avec le siècle, c'est-à-dire qu'en travaillant sur le siècle, on avait les 788 membres et on en avait 700 dans le Ouzou et peut-être 80 qu'on n'avait pas. Et donc on a trouvé certaines récurrences. Alors il y a avocat fiscaliste, on va pas dans le Ouzou, je pense qu'on veut pas faire trop de publicité, il faut être discret, etc. Inversement, juge antiterroriste, vous allez pas donner votre adresse, le nom de vos enfants, leur âge, enfin, autant de détails qui seraient dangereux pour vous. Donc après plus sérieusement, ce qu'on a fait, c'est qu'on a même on a essayé de confronter l'image que le Ouzou donnait de la population active avec ce qu'elle est du côté de l'INSEE. Et donc là, on a pu voir en pratique que le Ouzou fait quelque chose de très conforme, on va dire, au sens commun élitiste, c'est-à-dire qu'il pondère les groupes. Et plutôt que de donner l'idée d'élite qui serait hiérarchisée et en nombres inégales et voire foncièrement différentes, il donne une idée très balancée, très équilibrée des élites. Bon, un exemple bête, dans le Ouzou, vous avez 8% d'hommes politiques. Bon, prenez l'enquête emploi, si vous trouvez 0,1% d'hommes politiques en France, professionnel, j'entends, hein, ça sera un maximum. De même qu'il minore certains secteurs d'activité, donc dans le commerce et l'industrie, sont minorés par rapport à leur poids réel dans la population active, y compris leur poids chez les cadres et chez les patrons. Hein. Et inversement, vous allez avoir une remontée donc, de la finance, du commerce. Vous allez avoir la représentation patronale. Les organisations professionnelles patronales représentent là aussi 8 à 10% du Ouzou. Bon, si vous mettez les délégués patronaux dans l'enquête emploi, vous aurez un nombre assez restreint. Donc, au final, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on arrive à un petit jeu d'équilibre où vous avez 8% d'hommes politiques, 8%, 10% de financiers, 10% d'industriels, 10% d'académiques. Et les choses s'équilibrent comme ça. Donc ça donne une vision qui n'est pas représentative, évidemment, de la population. Mais en même temps, ça donne une vision de ce qu'est la représentation institutionnalisée des élites ou de ce qu'on appelle élite en France à un moment donné du temps.
C'est démocratique.
Voilà. C'est des quotas. C'est...
Oui, je voudrais savoir si vous avez travaillé sur vous avez lue au départ était assez savoureuse, puisque tous ces jeunes gens, ils avaient en propre de ne pas avoir de mère. Mais par ailleurs, on sait qu'ils en ont et que ça compte beaucoup dans les situations sociales. Donc je voulais savoir si ces phénomènes-là, et notamment bon, qui sont très souvent invalidants pour les femmes qui ne bénéficient pas de cette hypergamie et cette ascension sociale par le mariage souvent. Est-ce que vous avez travaillé là-dessus dans la constitution des élites?
Alors on a essayé. En fait, on a eu pas mal de problèmes là-dessus. Quand on a voulu, d'abord, on a essayé de travailler sur les mères. Donc, sur les mères, on est arrivé à un monde assez binaire entre la mère qui travaille pas versus la mère qui travaille. Pourquoi ? Parce qu'en fait, souvent, ça redoublait quand même beaucoup l'origine sociale. Et la mère qui travaille, ça signalait quand même qu'on était soit du haut des classes populaires, soit du bas des classes moyennes, comme on voudra, versus plus tout le reste de la bourgeoisie où aucune profession n'était donnée pour la mère. Donc on en est arrivé à ce codage bizarre, même s'il y avait quelques mères patronnes, quelques mères médecins, etc. Mais elles se sont retrouvées cataloguées en mères qui travaillent. Bon, c'est un peu... on ne savait pas vraiment comment faire. Et puis, parce qu'il y a vraiment des effets de génération. Le Ouzou, c'est un dictionnaire biographique de gens vieux. L'âge moyen dans le Ouzou, ça doit être 63 ans, un truc comme ça. Donc les gens... C'est pour ça que les catégories d'âge que vous avez sur notre graphique, on a quand même une catégorie d'âge qui sont les 20-55 ans. Qui correspond à rien du tout, mais 20 ans, ça doit être un athlète qui est rentré dans le Ouzou pour divers exploits sportifs, et entre les deux, vous trouvez les quatre dirigeants un peu en vue, quelques cadres politiques, etc. Mais c'est quand même un dictionnaire de vieux, donc par définition, vieux et bourgeois renvoient quand même beaucoup l'idée d'une mère qui ne travaille pas, qui est au foyer. Ensuite, on avait essayé de traiter la question des conjoints. Bon, là aussi, l'âge est vraiment déterminant. C'est-à-dire que quand on prend les jeunes du Ouzou, les 20-55 ans, le conjoint femme, en général, travaille, enfin une profession est indiquée. Mais pour toutes les générations antérieures, c'est beaucoup moins vrai. Et donc, quand on a essayé de coder les différents types d'emplois occupés, on s'est retrouvé devant des choses très difficilement regroupables. Et ce, d'autant plus que c'était une des choses que je montrais au début, le déclin même très relatif du modèle familialiste fait que les gens là sont plus discrets souvent sur leur conjoint. Donc n'en indiquent pas forcément, Quand ils sont divorcés, par exemple, certains marquent divorcés d'eux et précisent de qui et de la profession de ce que faisait cette personne. Des fois, ils précisent divorcés de, remariés à. Et puis on ne dit pas, ou on dit une profession pour les deux, ou on n'en dit pas. Des fois, on suppose qu'ils sont divorcés, parce que machin, père de 3 enfants. Mais on ne sait pas avec qui il les a fait. Donc, c'est toujours un peu difficile, et je crois d'autant plus que les situations matrimoniales sont moins avouées ou moins claires. Par contre, si je prenais les gens du siècle, là, ça serait beaucoup plus simple. Parce que d'abord, c'est des gens très connus, donc c'est très facile souvent d'obtenir des conjoints, et donc à quelques célibataires, après, on voit vraiment des formes très classiques de famille, avec bien sûr des divorces maintenant, mais peut-être au moins 50 ou 60% des gens qui se sont mariés, qui ont eu des enfants, qui n'annoncent pas de divorce, etc. Bon, il faut voir que le Ouzou n'est pas un très bon instrument d'enregistrement des évolutions des familles. Si on cherchait à faire une étude sur le Pax à travers le Ouzou, le résultat serait vite fait. Dans le Ouzou, il y a 6 Pax, hein, dont 4 de personnes, entre des personnes du même sexe. Voilà, il y en a 6. Donc sur 22 000 entrées, ça fait quand même pas grand-chose.
Peut-être sur la question des variables, le lieu de résidence, en fait, il y a pas mal de sociologues qui ont abordé les élites en disant elles sont concentrées, etc. Il y a un Gotha un ghetto du Gotha, etc. Est-ce que vous l'avez pris en compte? Et sur la deuxième question, au niveau des ressources internationales, est-ce que c'est une dimension qui compte aujourd'hui dans ces élites? Circulation internationale, de pouvoir mobiliser des ressources à l'étranger. Et troisième question, je sais que vous avez complété ces analyses donc d'analyse d'ACM avec des analyses de réseau pour voir un petit peu comment ça circulait dans ce monde. Est-ce que tu peux nous en dire, qu'est-ce que ça apporte de je ne sais pas si tu peux nous en parler, mais de compléter ces analyses d'ACM avec des analyses de réseau.
Alors sur le lieu, à vrai dire, c'est du parisianisme très très aigu. Et la concentration, on a fait des tentatives de codage, mais les oppositions entre le 7e, le 8e, le 16e, le 17e, Neuilly, sont peut-être pas aussi importantes qu'elles ont pu l'être historiquement. Bon, évidemment, plus on monte dans l'axe, plus on se retrouve dans la vieille bourgeoisie, donc plus on va voir surgir étonnamment des fois des banlieues, puisqu'on va voir Versailles revenir, le Vésinet, enfin, des lieux qu'on n'attend pas forcément. Mais sinon, on n'a pas trouvé de résultats. On a essayé aussi avec les lieux de naissance. Et en fait, c'est tellement parisien qu'on arrive à pas avoir un codage assez fin. C'est-à-dire que c'est Paris versus province, ou Paris, grande ville, autre ville de province. Et en tout cas, ça n'a jamais été quelque chose de contributif significativement d'un point de vue statistique. La deuxième question que tu m'as posée, c'était
sur les ressources internationales.
Les ressources internationales, alors ça, on était plus gênés aussi. On a tenté, mais pour l'instant, on n'a pas réussi pour deux raisons. C'est que la nationalité est rarement donnée. On a le lieu de naissance, on a des lieux d'études et on a des lieux dans la carrière. Donc, le lieu de naissance, le problème qu'on a, c'est qu'il faut faire un codage qui tienne compte de l'âge, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens nés dans les colonies et dans l'Empire. Donc, dire qu'ils sont nés à l'étranger, des fois, s'ils sont nés à Alger, c'est pas tout à fait évident. Et donc, on laissait ça. Après, on laissait plus donc, sur les études.
Oui, oui.
Et sur les études, c'est assez étonnant, c'est que ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire que c'est très stable. Disons qu'en gros, vous avez toujours entre 7 et 8% des gens dans le Wuzhou, quelle que soit la génération, qui ont étudié à l'étranger, sachant que le pays qui remporte à toute époque le meilleur score, c'est les États-Unis d'Amérique. Et il me semble que ça amène à réfléchir sur ce que c'est que l'internationalisation. Et je crois que quand on prend des lieux comme Sciences Po, qui est devenu exemplaire de l'internationalisation, c'est plutôt les dispositions des dirigeants de Sciences Po qu'il faut interroger, et sur pourquoi ce volontarisme. Puisque l'idée, c'est quand même d'internationaliser les élites. C'est pas qu'elles sont internationales, c'est de dire, bon, vous allez tous partir à l'étranger un an. Donc c'est vraiment une construction volontariste. Alors, soit elle accompagne de la mondialisation, soit elle l'anticipe. Enfin, je sais pas, mais je pense qu'il faut vraiment plus réfléchir en termes de politique construite qu'en tant que réalité, puisque vous avez toujours eu une partie de la bourgeoisie cosmopolite, voyageant, formée à l'étranger, etc. Sur les réseaux, on n'en a pas fait encore. Donc,
ah bon, je pensais
non,
que...
J'ai fait sur d'autres époques, mais pas sur...
Tu penses que ça pourrait apporter quelque chose là, de coupler ça avec voir un peu comment ça circule dans ce monde-là, les relations, quels sont les...
Le problème, c'est des réseaux de quoi, en fait. C'est bon, pour faire des réseaux, faut établir des relations entre les individus. Alors on s'était dit au départ qu'on pouvait multiplier les affiliations institutionnelles ou associatives, mais le problème, c'est que dans ce cas-là, faut toujours des annuaires complets de toutes les organisations, etc., sans quoi on va louper des choses. Et en faisant ça, même, on n'examine pas des relations forcément réelles entre les personnes, mais des relations potentielles entre les personnes. Or, du coup, rapprocher des gens par leur propriété sociale me dit tout autant quelles sont la probabilité qu'ils se connaissent.
Est-ce qu'il y a une... Dans la politique du Wuzhou, est-ce qu'il y a... J'ai vu qu'il y avait une pondération un peu exagérée de certaines catégories. Est-ce qu'il y a un souci d'avoir aussi des candidats de la diversité visibles, etc. Est-ce qu'il y a une sorte d'inondation pour retirer seulement quelques-uns? Est-ce que c'est très ciblé? Comment ça fonctionne?
Alors, du côté du Wuzhou, ils n'ont pas forcément une politique destinée à cela, mais ils sont le réceptacle de plein de choses. Et il y a des associations qui promeuvent les élites de la diversité. Par exemple, un bon exemple, c'est le club du 21e siècle. Le fait qu'il y ait le mot siècle dedans n'est pas du tout un hasard. C'est un club qui se veut une antichambre du siècle pour les meilleurs d'entre eux. Et bon, c'est là d'où viennent Dati, Ramayad, Amara et d'autres encore. Et donc, il y a eu une construction au préalable d'élites dites de la diversité qui ensuite ne peuvent être que réintégrées par le Wuzhou lui-même. De même qu'il y a des associations qui essayent de promouvoir en ce moment les élites noires et qui ont fait un Wuzhou de l'élite noire en France. Et qui font ça essentiellement, il y a une étudiante qui travaille dessus à l'école normale, ils font ça essentiellement en s'appuyant sur des relais dans les milieux journalistiques, et notamment sur des journalistes qui ont des carrières à RFI et France O, pardon, Et donc, comme ça, qui ont une idée à la fois de ce qui se passe en Afrique et de ce qui se passe du côté de Antilles et Guyane. Mais le wouzou en lui-même essaye de diversifier, mais conserve ces critères qui sont forts, qu'il faut soit l'occupation d'une position, soit une réputation. Déjà,
je posais aussi la question parce que j'étais sollicité et je n'ai aucune raison, ni de position, ni de réputation pour y être, quoi.
Était-ce le wouzou en France ?
Bon, c'est louche, hein. Là, tu...
C'est très large, et puis après...
Normalement, non. Il a fallu faire quelque chose pour ça. ça doit venir soit de citations dans la presse, soit de responsabilités associatives, syndicales. Est-ce que c'était vraiment le wouzou in France ? Est-ce que ce n'était pas le marquise wouzou ? Non, mais c'est très très différent. C'est-à-dire que le wouzou en France, c'est une vieille institution qui fonctionne avec une espèce de jury à l'intérieur, qui dépouille la presse toute l'année, qui examine les gens, qui rentre automatiquement tous les conseillers d'État, tous les députés, etc. Et après, vous avez des entreprises comme le marquise wouzou qui ont pour but de constituer des wouzous internationaux, mais qui ont comme principal attrait pour eux qu'ils vont vous faire payer pour y être. Alors que les gens du wouzou in France, c'est gratuit d'être dans le wouzou. Vous ne payez pas, on vous demande d'en être. Et vous acceptez de l'être. Et après, bon, il est bien vu de finir par l'acheter au bout de quelques années, parce que sinon, ils vont peut-être examiner votre sortie possible. Mais normalement, il n'y a aucune contrainte. Donc, faut, parce qu'il y a plusieurs wouzous. Moi, j'ai déjà été sollicité par le marquise wouzou, mais pas par le gros livre rouge.
S'il n'y a pas d'autres questions.
Bon, en fait, c'est une dernière question un peu de fond, mais voilà, c'est un peu voilà, qu'est-ce qu'on fait du coup de tout ça? Et j'aimerais faire le lien aussi avec sur l'État de Bourdieu, quoi, qui me paraît intéressant dans ce travail, notamment donc l'idée que l'État serait une banque de capital symbolique. Et là, finalement, c'est une sorte de corps comme ça qui réussit, un corps d'État, quoi, qui réussit à s'approprier ces structures. Et donc, produire aussi une raison d'État, enfin des schèmes de pensée qui vont permettre de conserver l'ordre social, quoi. Enfin, voilà. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ces idées-là ?
En rapport avec ça, il y a plusieurs choses qu'on peut dire. Il y a François-Xavier Dudouet et Éric Grémion qui ont sorti un livre sur les patrons. Qui ont une thèse qui est discutable mais qui est intéressante, qui est que la noblesse d'État, entre guillemets, on l'a caractérisée comme étant une noblesse d'État, mais c'était avant tout l'élite d'une époque. Et leur thèse, c'est un peu que de dire que plutôt que d'être agi par l'État, c'est plutôt une élite qui a agi l'État à son propre bénéfice. Et éventuellement en privatisant de larges parts, sur le plan économique, on pourrait penser à Pébro, qui a privatisé la BNP à la tête de laquelle il est, quoi. Et qu'une partie de la noblesse d'État s'est comme ça servi de l'État comme un tremplin pour des stratégies qui, après, aujourd'hui, dépassent très largement le cadre national, puisqu'elles s'orientent plus vers des entreprises multinationales et internationales. Bon, c'est une thèse qui est intéressante. Elle est peut-être un peu trop intentionnaliste, au sens où les gens auraient... n'ont pas voulu le faire, mais auraient agi l'État dans le but de servir leurs propres intérêts. C'est peut-être un peu trop intentionnaliste, de mon point de vue, parce qu'il y a un contexte international, parce qu'il y a un contexte européen qu'il ne faut pas du tout négliger dans ces évolutions. Mais il me semble qu'on voit là, dans la situation présente, qu'à partir du moment où l'État se désengage de ses activités économiques, il ne disparaît pas pour autant. Il se recentre sur d'autres activités. Il se recentre sur ses activités de régalienne, de justice, de police, et tout un ensemble de choses. Et que les élites économiques d'État, elles correspondent quand même vraiment à un moment historique qui est très spécifique, qui est celui du capitalisme français d'après la Seconde Guerre mondiale. et qu'à partir du moment où, du milieu des années 60 aux années 90, petit à petit, on a défait la planification, petit à petit, on est rentré dans un marché commun, petit à petit, on a laissé tomber la stratégie des champions nationaux, petit à petit, on a privatisé, etc. Tout ce qui était au sein de la noblesse d'État, le patronat d'État, n'existe plus en tant que tel. Et donc, je pense que l'adoubement par l'État reste aujourd'hui nécessaire, ne serait-ce que parce que l'État reste la banque qui décerne les titres d'État, en tout cas les titres hors du monde économique, ou pouvant prétendre à agir dans des secteurs qui ne sont pas uniquement le secteur économique, mais que parallèlement, une des choses importantes de la période, c'est la revalorisation du monde privé, du monde de l'entreprise, qui est une revalorisation qui se fait à plein de niveaux. Elle se fait aussi au niveau de la formation. Si on regarde la formation que dispense HEC, ESSEC, etc., aujourd'hui, par rapport à ce qu'était HEC, ESSEC, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, on a un monde. Ce sont devenus de grandes écoles à part entière, et plus des écoles de fils à papa, entre guillemets. Donc on a d'un côté, je pense, un déclin du patronat d'État, et de l'autre côté, un rehaussement du patronat du privé, et finalement une relative intersection et fusion entre les deux dans des lieux, notamment comme Sciences Po, qui est un bon exemple de lieu où s'entrecroisent ces élites.
Merci, on va aller déjeuner. On se retrouve à 14h pour une séance consacrée à la démocratie dans les services publics.